Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui nous rejoignent, content de vous retrouver. Nous sommes avec Monsieur Serge Pina, qui est le directeur régional de Engie. Monsieur Serge Pina, bonjour.
Oui, bonjour.
Engie, en ce moment, le gaz, on en parle beaucoup parce qu'avec tout ce qui se passe en Ukraine et avec les approvisionnements russes, de votre point de vue, ça donne quoi ?
Oui, mais écoutez, bonjour. Effectivement, le conflit en Ukraine occasionne quelques préoccupations en termes d'approvisionnement. C'est une réalité puisque la société Gazprom est essentiellement donc fournisseur russe pour lequel nous achetions jusqu'à aujourd'hui donc l'équivalent de 20% de notre consommation nationale, a souhaité diminuer de façon significative ses approvisionnements. Et donc pour nous, nous prenons désormais nos responsabilités et il était important pour la société d'Engie, comme d'autres énergéticiens certainement, mais en tout cas pour nous, c'est d'avoir mis en place déjà des actions de court terme pour répondre à cette urgence absolument indispensable de diversification des approvisionnements de gaz.
Actuellement, juste une question, actuellement le gaz russe représentait quel pourcentage dans votre approvisionnement ?
Le gaz russe aujourd'hui représentait pratiquement l'équivalent de 20% de nos achats de gaz sur le territoire français.
Et la fermeture des frontières et des gazoducs, ça a fait baisser de combien ?
Ah ben là aujourd'hui, on est à la moitié, quoi. Et on sait très bien que c'est une grosse difficulté pour les mois d'hiver qui vont arriver. Alors pour pallier à ça, deux, trois actions importantes. La première, effectivement, comme je l'évoquais, c'est la diversification des approvisionnements gaz auprès de nos voisins de la Norvège, auprès des Pays-Bas également, et puis de notre partenaire historique, bien sûr, l'Algérie, qui continue bien sûr à nous livrer ce gaz. Cela dit, l'exigence tarifaire sera aussi une préoccupation puisque la sollicitation grandissante des autres pays européens fait qu'à un moment donné, nous aurons effectivement à subir des inflations. Ça, c'est le premier point. La deuxième action importante que nous avons souhaité mener, c'est une installation d'une unité flottante de stockage et de regasification que nous avons que nous mettons en place dans le port du Havre, de façon à pouvoir accélérer dès aujourd'hui donc les importations de gaz et de faire, en amont, une réserve suffisante pour pallier aux besoins ces mois d'hiver.
Et ça, c'est du stock de sécurité, en fait.
C'est du stock de sécurité, mais c'est surtout du stock dont nous aurons besoin au moment des journées d'hiver, comme je l'évoquais. Et puis, on a aussi l'intention, et c'est déjà en cours aujourd'hui, de remettre en disposition des installations qui étaient précédemment sous cocon. Dans notre vocabulaire, sous cocon, ça veut dire que nous avions des installations susceptibles d'accueillir du gaz et on les avait mises en sommeil. Et aujourd'hui, on va les remettre en fonctionnement, justement pour pouvoir regazifier le gaz que nous ferons livrer des pays tels que je l'ai évoqué tout à l'heure.
Le gaz, bon, c'est quelque chose qui vient du sous-sol. En France, on n'a aucune réserve naturelle, nous.
Alors, certains de ma génération, j'ai envie de dire, connaissaient effectivement les usages de l'extraction du gaz à la Sobégie, à Lac, à Pau, en région Béarn. Mais ça fait déjà quelques années que nous avons arrêté l'extraction du gaz à Pau, au bénéfice d'ailleurs de mise en place de chaudières écorces de bois et puis également issu du monde agricole. C'est une décision qu'avait pris d'ailleurs à l'époque le président de Total et le président Gérard Mestrallet, conjointement président de Suez, de GDF Suez à l'époque, pour pallier justement à cette difficulté gazière à Lac. Pour le rappeler, ce qui avait justifié d'ailleurs l'implantation de ces industriels majeurs et significatifs sur cette plateforme, c'est de pouvoir bénéficier justement d'un prix attractif du prix du gaz, donc de l'énergie, pour la production de ces industriels.
Et pour toute l'Europe, le principal fournisseur, c'était la Russie.
Gazprom, la société Gazprom, effectivement, était le fournisseur majeur pour les pays européens. Et alors, vous m'avez posé la question du pourcentage en France, j'évoquais 20%. Nos amis allemands sont plus à risque aujourd'hui, puisque pour eux, c'était 40%.
Les autres pays fournisseurs, vous avez dit, c'était la Suède, la Norvège.
Suède, oui, Pays-Bas, donc Norvège et Algérie. Effectivement, les principaux fournisseurs et partenaires de la France pour l'approvisionnement en gaz.
Et eux ont les ressources naturelles dans leur sous-sol. C'est pas du gaz russe qui transite par la Suède ou la Norvège.
Non, ça c'est bien du gaz. C'est bien du gaz. J'ai presque envie de dire local, effectivement, qui est extrait et qui nous sera mis à disposition, quoi.
Et les infrastructures existent, c'est-à-dire qu'il y a toujours les tuyaux qui existent entre ces pays-là pour pouvoir être approvisionnés.
Ouais. Oui, absolument. Ouais. Mmh. Oui, le réseau de distribution est bien là. Et puis bon, nous avons la chance chez Engie d'avoir à la fois StoreEngie pour le stockage, qui est une filiale d'Engie pour le stockage du gaz, et puis bien sûr notre distributeur historique GRDF pour la partie distribution de gaz sur les territoires français en termes de services publics, et puis pour les collecteurs plus conséquents avec GRT Gaz, qui est également une filiale d'Engie.
On parle régulièrement des stocks stratégiques de l'énergie, c'est vrai aussi pour le gaz, j'imagine.
Oui, stratégique, c'est parce que simplement, on est obligé d'avoir la capacité d'accueil justement de ce stockage et les compétences de StoreEngie en ce domaine sont extrêmement précieuses.
Quel est le risque réel? Il y a quelques jours, on a parlé dans la presse, où il y a eu une concertation entre les différents producteurs d'énergie en demandant aux Français de réduire de façon modérée leur consommation d'énergie pour cet hiver. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce qui justifie ça aujourd'hui, justement?
Oui, c'est vrai que la presse, d'ailleurs, s'en est emparée. Donc, les trois présidents des groupes énergéticiens, EDF, Total Energy et Engie, se sont concertés de façon à conjointement solliciter, je dirais, les concitoyens et exprimer la nécessité d'avoir une attitude et un comportement responsable, dans le sens où, finalement, la meilleure énergie, ça reste bien sûr celle que nous consommons pas. Donc c'est un discours que vous avez déjà entendu, mais il est tellement vrai. Et j'ai envie de rappeler ici à l'antenne que un degré d'économie sur votre thermostat, c'est quand même 8% de la facture à moins. Donc c'est un ratio que on connaît peu, mais qui est quand même extrêmement significatif. Alors oui, il y aura, je pense, dans les usages, des conduites et des comportements citoyens à avoir, parce que, au même titre que le service de l'eau, l'énergie sont des choses auxquelles nous n'avons pas été trop confrontés. On appuie sur le bouton, la lumière est là, et on ouvre le robinet, l'eau arrive. C'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et c'est quand on en est privé qu'on se rend compte effectivement de la nécessité de le préserver. Alors là aussi, on sait et on est aujourd'hui malheureusement prévenu que nous aurons des difficultés d'approvisionnement énergétique et avec l'inflation qui va avec, elle soit d'ailleurs pour le gaz et pour l'électricité également. Donc la meilleure des choses effectivement, c'est d'être soi-même discipliné dans l'usage et dans le comportement. Plusieurs solutions, hein, bien évidemment, mais il faut aussi penser aux plus modestes. La question n'est pas uniquement de dire qu'on va moins se servir de l'électricité, etc. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de logements qui ne bénéficient pas d'isolation suffisante de qualité pour éviter justement cette surconsommation. Donc ça commencera par là. Il faut aussi accompagner de plus en plus nos concitoyens à mieux isoler leur logement, les aider. Le gouvernement l'a déjà fait, hein, bien évidemment. La région aussi, hein. Les services de la région Occitanie, présidés par la présidente Caro Delga, sont au chevet de cette préoccupation énergétique qui est une vraie réalité. C'est aujourd'hui réellement la situation. L'Ukraine n'a fait que le révéler, mais nous avions déjà à l'esprit cette préoccupation à la fois de production, de distribution, de préservation et surtout de tarification pour le plus grand nombre.
Vous êtes le représentant local de Engie. Vous êtes en même temps distributeur d'électricité à côté. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces modifications de comportement fassent des transferts d'utilisation d'énergie? C'est-à-dire qu'on passe du gaz plus vers l'électricité ou de l'électricité plus vers autre chose?
Je crois que nous avions déjà cette préoccupation, sincèrement. Et puis, la stratégie d'Engie est aujourd'hui connue et avérée. Notre volonté, c'est de pouvoir développer massivement les énergies nouvelles et renouvelables sur le territoire, en utilisant la richesse du territoire et ce que j'appelle, dans mon terme, si vous m'autorisez de chasseur que je suis, le biotope. Effectivement, les technologies que nous maîtrisons aujourd'hui sont multiples. On peut évoquer l'éolien offshore, bien évidemment, nous avons des projets au large de Leucate-Barcarès. On peut évoquer l'éolien terrestre qui, effectivement, interroge, interpelle parfois, et il y a là un réel besoin d'acceptabilité et d'appropriation, bien évidemment. Mais aussi la méthanisation. La méthanisation, je crois qu'on peut encore faire beaucoup mieux que ce qui est fait aujourd'hui en termes de développement de cette technologie de production d'énergie, parce que la méthanisation, elle peut être réalisée à travers l'exploitation des déchets agricoles, des déchets, je dirais, domestiques également. Et on a trop peu d'installations. Le paradoxe auquel nous sommes confrontés, c'est que pour parcourir l'ensemble du territoire de l'Occitanie, puisque c'est mon terrain de jeu au quotidien, je n'ai pas rencontré un seul élu qui soit, en tout cas, austère à ce développement. Bien au contraire, dans la bouche de tous, il y a cette nécessité, cette volonté de développer les énergies nouvelles et renouvelables. Le paradoxe, c'est que nos délais d'instruction sont bien trop longs. Quand on voit aujourd'hui qu'un délai de projet de méthanisation ou bien d'éolien, c'est 7-8 ans, c'est pas du tout adapté à la réalité à laquelle nous sommes confrontés dans l'urgence aujourd'hui, à la fois par rapport aux défis climatiques, mais par rapport à l'urgence tout simplement d'approvisionnement. Donc oui, il faudra absolument que nous ayons là aussi un regard partagé avec les décideurs. Il faut vraiment que le gouvernement nous aide dans ce domaine-là pour raccourcir ces délais d'instruction qui sont aujourd'hui inadaptés à la situation.
Ces délais, ce sont des délais politiques, ce sont des délais administratifs ?
Politiques, non, je ne le crois pas, parce que comme je vous le disais, peu importe la sensibilité politique, tous les acteurs de ce monde politique, effectivement, sont unanimes à partager en tout cas cette volonté d'aller vers cette production énergétique d'énergie renouvelable absolument nécessaire pour mieux décarboner l'énergie d'aujourd'hui. En revanche, je crois que c'est plutôt un problème administratif, effectivement. Et puis, j'ai pu constater aussi, par ailleurs, que ces mêmes délais d'instruction étaient, et c'est paradoxal, mais étaient aussi différents d'une région à une autre. Donc, il faut qu'on soit attentif et il faut vraiment que, avec, je dirais, les institutionnels du territoire, les élus, nos députés, nos sénateurs, nous puissions ensemble, conjointement, sensibiliser massivement le ministère de l'Énergie et les services de l'État pour que cette préoccupation de délai soit à la fois prise en compte, mais je sais qu'elle l'est, mais surtout qu'on puisse y apporter des modifications importantes.
Pour répondre à cette pression, je dirais, à la fois environnementale et d'approvisionnement, est-ce que vous vous inspirez de ce qui se passe dans les autres pays européens pour leurs solutions trouvées par rapport à la même problématique que nous, tout compte fait ?
Il n'y a pas de mimétisme, il y a effectivement une concertation, une forme de cohérence en tout cas dans l'urgence et dans l'acceptabilité. Encore une fois, nous sommes quand même différents par rapport aux usages et différents dans la capacité à produire des énergies. Donc je crois que chaque pays devra et doit effectivement développer ce dont à la fois la nature lui offrira le maximum d'opportunités à produire de l'énergie à la fois renouvelable mais surtout compétitive.
Oui, parce qu'encore une fois, c'est le prix qui décide beaucoup de choses.
Oui, on a la chance de maîtriser l'ensemble des technologies dont je viens de parler, à la fois chez Engie, mais au niveau national. Donc ces technologies sont totalement maîtrisées aujourd'hui. Par contre, il faut qu'effectivement, d'évidence, elles deviennent compétitives aussi sur le plan financier, parce que je crois que c'est aussi l'interrogation légitime de remplacer immédiatement les énergies nouvelles par ne serait-ce que par le nucléaire.
Donc si vous aviez un message à faire passer à nos auditeurs sur les mois qui vont arriver au niveau de l'énergie, et vu la situation actuelle, ce serait lequel ?
Mais que nous soyons solidaires. Je crois qu'on a trop souvent, je dirais, l'envie et le réflexe de s'insurger sur les décisions qui sont prises en local par nos collectivités, nos mairies, nos départements, nos régions, le gouvernement, etc. Là, il y a une réalité qui nous dépasse un petit peu, pour laquelle nous sommes malheureusement presque, j'allais dire, impuissants. En tout cas, nous ne sommes pas à l'origine. Mais il va falloir donc être solidaires dans le fait qu'il y a, il y aura des solutions qui vont être mises en œuvre et qu'il sera difficile de pallier de toute façon, malheureusement, à une inflation tarifaire gaz élec. Donc ça, c'est certain que nous y serons confrontés. Donc la première étape, effectivement, c'est d'avoir, encore une fois, nécessité d'être prudent dans son utilisation. Et je l'ai dit tout à l'heure, je veux bien le redire, 1 degré, c'est 8% de la facture. Donc je crois que rien que ça doit nous inciter à chacun d'avoir une attitude bien plus citoyenne.
Serge Pinard, responsable délégué régional de Engie, merci beaucoup d'être venu à Radio Galaxie.
Merci à vous, merci de votre accueil.
Et puis la maison vous est ouverte, à très bientôt.
C'est très gentil, merci beaucoup, à bientôt.